Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Grand Bain. Que pensez-vous trouver dans l'enfance de Catherine Millet, celle-là même qui a couché sur le papier la vie sexuelle de Catherine M, égrenant avec audace et froideur les culs, les cons et les partouzes? Sûrement pas de votre enfance à vous, et pourtant. En 284 pages, Catherine Millet saisit avec une acuité vertigineuse le silence des banlieues résidentielles, la vie à 5 dans un 3 pièces, les vacances à la mer, la bibliothèque verte, la solitude des cours de récré, nos pères qui ne parlent pas, nos mères qui les dénigrent sans cesse. Tout ce qui se passe chez nous et qu'on ne raconte pas, tout ce qui traverse un enfant et qui le construit. À ceci près que vous, petit, n'avez pas choisi de dédoubler votre vie. Catherine, elle, s'est abîmée dans une longue rêverie. Son livre, aujourd'hui, est une ode à la puissance, à la confiance et à la liberté que confère l'imaginaire.
Voici les livres que nous allons vous présenter ce soir. Commençons par La Chamade de François Sagan.
Elle est montée à Paris, comme on dit, faire ses études. Il a décidé de travailler.
Elle n'aime pas ça.
Elle n'aime pas ça du tout.
Elle a une très grande capacité de ne rien faire et un très grand besoin de ne rien faire.
Elle aime bien voir le temps passer. Elle n'aime pas s'occuper.
Elle ne veut pas faire comme eux, c'est-à-dire comme les autres.
Elle ne pense pas que la vie ait d'autres significations que l'instant qui passe. Elle ne se croit pas obligée d'avoir ni un métier, ni un but, ni une passion, ni une occupation sociale, enfin un statut social. Le fait de respirer, de regarder les arbres, de se promener, d'aimer quelqu'un, de...
C'est un peu sa vocation.
Sa nature profonde est admise.
Bonjour Catherine Millet.
Bonjour.
Vous avez reconnu instantanément,
oui, j'ai
vous avez
reconnu
souri.
Tout de suite. Oui, oui. Cette interview, je pense que c'est Dumayet qui interviewe.
Exactement.
Françoise Sagan.
Oui, Pierre Dumayet.
Et j'étais en train de me dire, mais j'avais beaucoup d'admiration pour Françoise Sagan, et j'étais en train de me dire, mais si j'avais vraiment à l'époque écouté ce qu'elle disait, j'aurais pas fait ce que j'ai fait après, c'est-à-dire travailler comme une dingue. J'aurais continué à rêvasser comme en effet je le faisais
enfant. Parce que moi, ce qui m'amuse vraiment beaucoup en écoutant ça, donc c'est la première émission littéraire du PAF, hein, ça s'appelait Lecture pour tous et vous en étiez une téléspectatrice assidue. Moi, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que vous avez réussi, c'est-à-dire que vous faites partie de ce club extrêmement restreint de ceux qui vivent exactement ce qu'enfant ils avaient rêvé. C'est-à-dire que petite, vous vous asseyez en tailleur devant la glace et vous répondez aux questions de Pierre Dumayet, aux questions que pose l'ORTF aux écrivains à succès.
Oui, et
voilà,
et aujourd'hui, je vous réponds à vous.
C'est ça.
Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est en fait... Des fois je me pince même pour me dire mais c'est fou parce qu'en fait bon ceci dit on passe sa vie à se donner des objectifs qu'on n'atteint pas vraiment ou on passe à côté ou on fait autre chose. Vous voyez, on vit quand même principalement dans l'insatisfaction. Bon. Et c'est mon cas, comme pour tout le monde, bien sûr. Moi, je me donne des objectifs et je passe mon temps aussi à me dire « mais t'es passé à côté, c'est pas comme ça qu'il fallait faire » ou « t'as pas fait aussi bien que t'aurais souhaité », etc. Bon, évidemment, bon. Et puis en même temps, de temps en temps, je m'arrête, je me regarde dans une glace, en tout cas virtuellement, et je me dis « bon, mais finalement, c'est vrai ». Et surtout, là, après avoir écrit ce livre et m'être remémoré tout ce qu'il y a dedans, je me dis « bah finalement, oui, c'est vrai, je voulais passer à la télé pour répondre aux questions des journalistes. »
C'est ça, vous vous êtes rêvé écrivain, mais vous vous êtes pas rêvé plumitif en exil,
non.
Affamé dans un grenier. Vous vous êtes rêvé écrivain à succès de ceux très peu nombreux à qui on tend le micro et les caméras. Et le succès médiatique donc, ne date pas d'une enfance de rêve que vous publiez aujourd'hui chez Flammarion. Il date de 2001, donc il y a une quinzaine d'années, lorsque vous, directrice d'une prestigieuse revue d'art contemporain, Art Press, vous signez La vie sexuelle de Catherine M, traduit en 40 langues.
Oui, une quarantaine, oui.
Voilà, c'est ça. Donc des interviews...
Y compris l'arabe. J'ai une éditrice au Liban qui l'a traduit en arabe. Voilà, je le dis, hein, parce que c'est important.
C'est important. Et surtout, vous avez donné des interviews dans le monde entier. Et je me disais, c'est le triomphe absolu et très spectaculaire des mots et du récit de soi. Et c'est précisément, c'est là-dessus que s'ouvre votre nouveau livre, c'est précisément ce que votre père à vous ne pouvait pas.
Ah oui, oui, bien sûr. Oui, en fait, je me dis qu'aujourd'hui, peut-être, les gens sont moins enfermés qu'ils ne l'étaient à l'époque dans leur silence. Alors, bien sûr, moi, mon père, j'allais dire, il avait fait la guerre. Il n'avait pas fait la guerre. Il fait partie de ces hommes qui ont été faits prisonniers tout de suite, très, très vite. Donc, il a passé 5 années dans les camps, des camps qui étaient de prisonniers, des camps qui étaient de plus en plus durs parce qu'il a fait je ne sais combien de tentatives d'évasion. Et donc, à chaque fois, on le mettait dans un camp un petit peu plus sévère. Donc, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup souffert et qui, comme d'autres, d'ailleurs, sont revenus, ont vu à quel point la vie pendant ce temps-là avait changé, leur femme avait changé, et c'était le cas de mon père.
Il venait juste de se marier.
Il s'était marié en mai ou juin 39. Ouais. Donc il n'avait pas eu pratiquement de vie commune, et il rentre, et elle a fait sa vie, voilà, c'est devenue une très jolie femme, beaucoup plus indépendante, évidemment. Elle avait gagné son indépendance à se retrouver seule comme ça, travaillant, et donc ayant sans doute des aventures. Et lui est arrivé. Et ce qu'il a souffert sans doute à ce moment-là, pendant le temps de la guerre, puis à son retour, il ne l'a sûrement pas mis en mots. Il m'en a parlé, mais en mots très, très avares. Et des années plus tard, quand j'étais moi-même devenue une adulte, quoi, qui pensait qu'il pouvait m'en parler. Ouais.
Et d'ailleurs, vous dites un petit peu plus tard dans votre livre, je vous cite, « On peut manquer de tout, mais ne pas disposer de mots qui désignent sa souffrance est à mes yeux le malheur extrême. Les mots marquent la distance minimale qu'il est permis de mettre entre soi et la douleur. » Alors c'est évidemment entre vous et vos douleurs d'enfant, mais ça vaut également pour votre père. C'était quand même un homme complètement emmuré dans ses souvenirs, dans son cauchemar, dans sa tristesse.
Oui, mais pas simplement parce qu'il était, disons, d'un naturel peu loquace. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait encore cette morale, voyez, qui nous vient d'ailleurs de la morale du 19e, de la religion sans doute, etc., qu'on n'embête pas les autres avec ses propres états d'âme. Aujourd'hui, ça a un peu changé, parce qu'au contraire, voilà, il y a une vulgarisation de la psychanalyse, de la psychologie en général, et on dit au contraire, exprimez-vous si ça va pas bien, allez-y, parlez, on fait ces cellules, vous savez, quand il y a un drame quelque part, de psychologues qui viennent écouter les gens, il faut qu'ils extériorisent toute leur souffrance. Il n'y avait pas cette culture encore. Et au contraire, il y avait la culture de un adulte, c'est quelqu'un qui sait se tenir et il ne va pas se plaindre. Voilà. Et d'ailleurs, on disait ça, moi, pendant mon enfance, le nombre de fois où j'ai entendu qu'on me disait, je m'étais fait un bobo, et on me disait, mais tu ne vas pas te plaindre pour quelque chose d'aussi...
Alors, vous allez quand même un tout petit peu plus loin, c'est-à-dire que vous dites que l'opinion publique, à la sortie de la guerre, découvre les camps, rend hommage aux résistants, et du coup, ces Truffiaut en captivité n'a pour eux que de l'oubli ou que du mépris.
Oui.
Ce que vous sentez dans la société, ce que vous sentez à la maison
bien
aussi,
sûr,
c'est-à-dire que
sûr.
Votre mère et votre grand-mère...
Oui, oui. Il y avait des allusions au fait que, après tout, peut-être qu'il avait fait exprès de se
c'est
faire
les
prendre. Voilà, c'était les planqués. Voilà, ils avaient été... ils n'étaient pas allés vraiment au combat. Voilà. Et donc, on était en train de découvrir, c'est vrai, des drames tellement plus profonds. Hein, c'était tellement plus terrible ce qui s'était passé dans les camps de où on avait mis les Juifs, que en fait, ils ont été méprisés. Alors là, ma mère et sa mère qui vivaient avec nous se privaient pas de l'humilier, oui, ça c'est sûr.
Alors voilà, Simone et Louis, car vous dites mon père, vous dites ma mère, vous dites Simone, vous dites Louis, vous dites Jeanne pour votre grand-mère, vous ne dites jamais papa, maman, je ne sais pas si
non.
ce sont des mots
oh, non,
que
ça...
vous avez prononcés enfant.
Oui, je les ai forcément prononcés, mais alors je trouve que rien de plus ridicule aujourd'hui que cette mode, même des adultes, on les entend parler et dire papa, maman, comme ça. Je trouve que ça infantilise les gens d'une façon générale. Non, c'est mon père, ma mère. Ça dépend. Je pense qu'en fonction de là où j'en étais dans mon récit, est-ce que je les regardais avec mon regard d'enfant au moment où j'en parle là dans cette page, ou est-ce que je les regarde avec mon regard d'adulte d'aujourd'hui, je changeais. Donc je basculais de mon père, ma mère, si c'était avec le regard d'enfant, à Simone et Louis lorsque c'était le regard de Catherine.
Alors,
aujourd'hui.
Simone et Louis ont eu deux enfants. Il y a eu une époque où c'était un couple, vous le dites. Il y a les photos, il y a les vacances à la mer. Et pourtant, ils se disputaient sans cesse. C'est-à-dire, ouais. c'est un couple qui a été presque tué dans l'œuf par, ouais, ce, moi, par ce séjour à la guerre, par ce séjour en camp.
Je n'ai pas le souvenir. Alors, voilà, ça m'intéresse. C'est ce que d'autres ont eu la même expérience. Je n'ai pas le souvenir de gestes d'affection entre mes parents, ou d'une parole affectueuse, voilà, qui aurait montré qu'il y avait de l'amour entre eux, ou qu'il y avait eu de l'amour, même une trace, vous savez, même des gens qui se disputent tout le temps, il reste quelque chose de l'amour inaugural. Et entre eux, non, je n'ai aucun souvenir de ça. Ça, c'est le drame de mon enfance, d'avoir assisté à cette mésentente de mes parents, et d'avoir rien pu faire, quoi, en fait.
Et moi, vous le dites, hein, ce foyer était la fournaise de l'enfer. Ouais, vous parlez, ouais, de ce trois, ouais, pièces dans lequel vous avez vécu à cinq. Vous dites que vos parents n'espéraient pas qu'une vie meilleure puisse être envisageable, qu'ils étaient totalement désabusés, qu'ils ont subi ce mariage, ouais, raté, ouais, dès le départ, et que ça s'est traduit par une violence verbale et physique permanente.
Oui, 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 oui. Bah, c'est pareil, là aussi, c'est l'époque qui faisait que si on avait des enfants, on divorçait pas, quoi. Il fallait, c'était d'une absurdité absolue, parce que les enfants souffraient. Ils auraient sûrement moins souffert si, comme ça se fait aujourd'hui, les parents avaient divorcé, qu'il y a eu la garde alternée. D'ailleurs, mes parents avaient inventé, je crois, la garde alternée avant que les juristes ne l'aient inventée, parce que comme ils ne sortaient jamais ensemble, eh ben, on passait un dimanche avec mon père qui nous emmenait au cinéma et un dimanche avec ma mère. Voilà.
Alors les enfants, c'était vous et c'était votre petit frère Philippe. On a glissé une photo de vous et de Philippe très très jeune. Je pense que vous devez avoir 7-8 ans et puis lui 3 ans de moins sur le site de l'émission.
Ah, d'accord.
Et aussi sur la page Facebook du Grand Bain.
J'étais dans les yeux au petit jour. Je fais des tours et des aveux. Je t'ai en tête quand mes idées, souvent muettes, chantent l'été. Avec des battements de cils, je joue des tours à tes humeurs. Jusqu'à ce que tu perdes le fil, à en oublier le nom des fleurs. Des pavés, je raconte la lune, je te raconte la lune. Je m'étends sur la brume ou sur tes baisers. Mais moi je sais raconter tes baisers. Je décris des dizaines d'humeurs quotidiennes. Je te chante encore mes joies, mes peines. Je détaille toujours des histoires tout bas. Mais comme j'aime penser à toi, avec des battements des cils, je joue des tours. Les heures se prélassent, je t'ai dans la peau.
dans la peau. Au petit matin, alors que les rêves passent, ton regard berce mes chagrins. Pendant que les heures se prélassent, je t'ai dans la peau. Au petit matin, alors que les rêves passent, ton regard berce mes chagrins. Pendant que les heures se prélassent, je t'ai dans la peau. Oh, oh, oh.
Dans la peau de Camélia Jordana. France Inter en mode été, Pascal Clark à la plage, le grand bain aux manettes du 9-10 et Catherine Millet qui l'ouvre cette saison avec Une enfance de rêve parue chez Flammarion.
Les magasins sont une permanente exposition de ce qui se fait, de ce qu'on choisit, de ce qu'on aime, de ce qui est la mode. Dites, combien de fois par an est-ce que les vitrines sont changées? Voyons, il y a Noël avec les vitrines animées.
Oui, les principales expositions, vous avez Noël, vous avez l'exposition de blanc, l'exposition de grande dentelle parfumerie, les premières nouveautés d'été, dernières nouveautés d'été, les vacances, beaucoup de manifestations. Et je dois vous dire que tous les étalages doivent être changés tous les 15 jours. Et voyez la quantité innombrable de vitrines.
Catherine Millet, vous êtes, écrivez-vous, la fille d'une mère à la fois grave et futile. C'est une phrase qui arrive très tard dans votre livre. Je la trouve extrêmement retenue, extrêmement pudique. Vous faites un portrait de votre mère très troublant et très complexe.
Bah, oui, c'est normal. D'abord parce que notre relation avec notre mère est rarement, est en général complexe. C'est rare que ce soit simple. Et puis parce que, en fait, vous voyez, j'aurais pas voulu écrire un livre où j'aurais, je sais pas, réglé mes comptes avec mes parents parce que, en effet, leurs disputes ont pourri mon enfance. Bon, donc en fait, c'est pour ça que j'ai essayé de faire de mes parents des portraits qui sont assez nuancés. On a évoqué tout à l'heure le mépris que ma mère avait pu avoir pour éprouver pour mon père qui était resté prisonnier pendant toute la guerre, donc qui peut-être n'avait pas combattu courageusement. Bon, mais il ne faut pas lui en vouloir non plus. Je veux dire, elle était prise dans un état d'esprit général. Et voilà. Et puis, elle a été, comment dire, elle a eu du mérite de travailler toute sa vie, d'élever ses deux enfants. Mon père, finalement, ne s'occupait pas trop de nous et tout ça. Moi, j'ai voulu faire quelque chose d'assez équilibré comme portrait de mes parents. Quoi,
donc, c'était une mère midinette et coquette qui vous a...
Ah oui, c'est la vraie midinette. C'est-à-dire que c'était vraiment la petite secrétaire qui travaillait, qui était dactylo dans des bureaux dans le quartier en général autour de Saint-Lazare parce qu'on habitait une banlieue comme ça qui donnait accès à la gare Saint-Lazare. Et elle passait, c'est ça une midinette, c'est celle qui passe l'heure du déjeuner à aller traîner dans les grands magasins.
Chez Prise Unique.
Ouais, aux Galeries Lafayette et s'acheter des bricoles, quoi. Oui.
Alors, vous racontez aussi les crises de nerfs de Simone. Ouais. Vous dites qu'elles étaient de plus en plus fréquentes et vous écrivez « Je ne m'y suis jamais habituée, toute la maisonnée se rétractait, nos cervelles et même nos muscles se ratatinaient. À l'âge que j'avais, la violence n'avait pas de degré. » Ce qui me frappe beaucoup, c'est que souvent, quand vous parlez des irruptions dont était capable votre mère, des cris, du langage, parfois d'une effroyable brusquerie, vous en parlez en termes d'espace, comme s'il y avait une effraction dans votre espace enfant, dans l'espace de l'enfance qui doit être clos, qui doit être protégé.
Oui, en fait, c'est ma façon de rendre compte de ça, c'est vrai. D'abord parce que peut-être, pour moi, la perception de l'espace est quelque chose de très important. C'est pas un hasard si je m'occupe finalement d'art, de peinture. Hein, c'est la représentation de l'espace. Bon, c'est vrai que les moments d'exaltation chez moi sont liés à des moments de découverte d'espace. Par exemple, je raconte un de mes tout premiers souvenirs, c'est quand je me suis retrouvée devant une grande plage comme ça, avec la mer très loin à marée basse. Bon, donc pour moi, la sensation d'espace, je suis venue là tout à l'heure jusqu'ici en taxi, on a traversé les Invalides et je me suis dit, mais c'est l'endroit de Paris que je préfère, c'est cette place des Invalides tellement ouverte comme ça, tellement, tellement belle dans ses proportions.
Est-ce que le fait d'avoir grandi à 5 dans un 3 pièces, chose qui revient vraiment de manière très récurrente dans votre livre, est fondamental créateur de,
oui,
ça,
je,
de ce rapport
je,
à l'espace.
Je pense
au corps,
qu'il doit y avoir un rapport, oui, parce que en effet, on était les uns sur les autres et sans intimité véritable, en fait. Hein. Il faut penser à toutes ces familles, encore aujourd'hui, où on vit comme ça, tassées dans des petits appartements. Ce qui fait que la vraie intimité, c'est le soir, dans le lit, avec ses rêves. Avec moi, j'étais une petite fille très religieuse, donc avec mes prières que j'adressais à Dieu. Là, c'était l'intimité. Et même cette intimité, à un moment donné, elle m'a été volée parce que ma mère, ne voulant plus partager ni le lit, ni même la chambre de mon père, est venue dormir avec moi dans le même lit. Et ça, ça a été, alors là, pour le compte, une effraction de mon espace intime terrible.
Oui. Et dans ce rapport de votre mère, Simone, à l'espace, il y a aussi quelque chose comme ça, comme une sorte de ritournelle qui revient. Elle passe son temps à changer les meubles de place.
Oui. Et quelqu'un m'a dit très, très justement, mais cette femme souffrait, elle cherchait à s'échapper, en fait. Bon, elle se bâtissait autour d'elle un nouveau décor parce qu'elle voulait fuir celui dans lequel elle se sentait prisonnière. Et comme elle n'en avait pas véritablement la possibilité, vous voyez, elle recomposait les pièces de l'appartement autour d'elle. Et vous imaginez bien que dans un trois pièces, il n'y avait pas énormément de possibilités. Puis ça l'occupait, voilà. Elle faisait tout elle-même, elle posait le papier peint, elle a même posé du linoléum, elle bricolait tout le temps. Ouais.
J'aimerais que vous nous racontiez un peu plus en détail comment vous avez découvert la mer, M-E-R.
Ah bon, comment j'ai découvert oui, ma mère s'est moquée de moi d'ailleurs. Ma mère, E-R-E, s'est moquée de moi. Je devais avoir 3 ans, 3 ans et demi. Et ils avaient décidé d'aller passer quelques jours, mes parents, à Rivabella, sur la côte normande. Et on est arrivé le soir en voiture. Et voilà, il fallait tout de suite montrer à la petite, quoi, qu'est-ce que c'était la mer. On allait lui faire découvrir ça. Ils étaient dans la jubilation de faire découvrir la mer à leur enfant. Et en fait, on est arrivé, et comme c'était la côte normande et que c'est un endroit où la mer se retire énormément, très très loin, on est arrivé au bord de la plage et nous n'avons pas vu la mer, contrairement à ce que vous disiez dans votre question. Donc, j'ai vu cette grande plage grise comme ça. Alors peut-être évidemment maintenant aujourd'hui ma mémoire a recomposé. Remodeler tout ça, peut-être à la faveur aussi de peintures que j'ai pu voir, etc. Mais ça reste comme une des toutes premières sensations très très fortes comme ça de mon enfance.
Alors Catherine Millet, vous écrivez un petit peu plus loin. Curieusement, je ne me souviens pas de ma première expérience de la mer. Donc cette mère, oui, qui n'en était pas une, et votre mère M-E-R-E qui se moque de vous en disant elle croit que c'est la mer, c'est resté quand même votre rapport fondateur à l'eau. Et puis beaucoup plus tard dans votre livre, en plus, vous ajoutez, on est dans une émission qui s'appelle Le Grand Bain.
Oui, que... oh, je sais, je vous vois venir.
Que, en fait, vous avez développé pendant toutes ces années une peur insurmontable de l'eau. Et que finalement, c'était aussi de la faute de votre mère qui ne savait pas nager, et qui ne vous avait jamais appris à nager.
Je dis pas que ça comme ça, c'est pas forcément de sa faute. Bon, et en effet, quelques années de psychanalyse m'ont pas aidé à résoudre ce problème, qui est même de pire en pire. Avant, je nageotais un petit peu là où j'avais pied, et maintenant même plus. C'est atroce parce que c'est une souffrance moins grande que celle éprouvée pendant l'enfance, mais c'est une souffrance quand même. C'est-à-dire quand je vois les gens tellement bien sur la plage pendant l'été, dans le bain, voilà. Je regrette beaucoup de ne pas partager leur plaisir. Bon, mais c'est comme ça, et j'ai pas réglé ce problème.
C'est bon. Ça. Donc vous avez beaucoup fréquenté la psychanalyse. Donc quand vous écrivez toutes ces pages sur la mer au moment où vous parlez de la vôtre,
oui, je sais.
Vous le faites en souriant et en même temps tout en pudeur.
J'ai la peur de l'engloutissement. Je suis quelqu'un avec, je crois quand même, faut que je le dise, un peu d'autocritique, sans doute un peu trop de self-control comme ça, et ça m'empêche de me laisser aller. Et je crois que le plaisir de l'eau, c'est justement de se laisser aller. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire.
Allez, Damon Albarn rejoint le Grand Bain, justement. Il a mis toutes les critiques et les programmateurs musicaux d'Inter par terre avec cet album solo.
Le Grand Bain sur France Inter avec Sonia De Villers.
In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op road to find the mission and help him with his load. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song. TV in Mr. Tembo's room. Of the emphatic night, he checked in on his own at Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there, he will need a help. Where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned.
Fred, you take those lions off the front of the bus. Good God, man, have some heart in you, will you, please?
All right.
I'm trying to run this expedition in a decent manner.
Logistics, haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales. Telegraph wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats and a church, not as usual.
Mr. Tembo's on his way.
Damon Albarn, anglais assagi, âme damnée de Blur qui revient en solo. Et face à moi, ce matin, Catherine Millet et son enfance de rêve, récit unanimement salué par la critique ces dernières semaines. Elle remonte le fil de ses premières années où rien, mais rien ne la prédestinait à devenir une intellectuelle parisienne.
Julien Sorel, avez-vous quelque chose à ajouter?
Oui. Mon vrai crime pour vous, c'est d'être né dans une classe inférieure et surtout d'avoir voulu en sortir. En me faisant couper la tête, vous punirez ces jeunes gens qui sont nés dans la pauvreté, qui ont eu la chance ou le malheur de recevoir une bonne éducation et l'insolence de se mêler à ce que l'orgueil des riches appelle la société. Mais regardez-vous, pas un seul ouvrier parmi vous, pas un seul paysan, non, rien que des bourgeois indignés. Et il y a de quoi? J'ai voulu être des vôtres, moi, un fils d'ouvrier.
Vous n'êtes pas la seule petite fille hein, des années 50 à vous être pâmée devant Gérard Philippe, que vous citez à de nombreuses reprises dans votre livre. Mais il est ici Julien Sorel, de ces héros de la littérature du 19e qui vous a tant nourri, qui vous accompagne toujours manifestement, et surtout de ces héros masculins auxquels vous vous êtes curieusement identifié.
Bah oui, en fait, oui, il y a aussi des, c'est vrai qu'il y a aussi des héroïnes, mais qu'est-ce qui a fait que moi, lorsque j'ai commencé à lire des livres et surtout les vrais livres, quoi, les livres sérieux, les mêmes livres que les adultes, et par exemple Stendhal ou Balzac ou Lamartine, je m'identifiais aux héros, peut-être parce que en fait, en même temps que j'étais fascinée par les histoires que cela racontait, j'étais aussi fascinée par la littérature elle-même, par le fait d'avoir ce pouvoir d'écrire ces histoires. Voilà. Et que ce n'était pas simplement l'identification avec le héros que je recherchais, mais c'était aussi l'identification avec l'auteur du livre. Et mon Dieu, à part la comtesse de Ségur, à l'époque, c'était surtout des auteurs hommes, enfin surtout la littérature classique française à laquelle on a accès d'abord. Bon, voilà, toute cette littérature du 19e, bah, c'est beaucoup des auteurs masculins. Et donc, moi, oui, c'est vrai que je m'identifiais, parce qu'en fait, souvent, les héros sont aussi le reflet des auteurs. Ouais, il y a toujours cette ambiguïté.
Et puis, ces héros masculins qui prennent leur destin en main, qui ont confiance en eux, qui franchissent les plafonds verts et les barrières sociales.
Ça, c'est une grande constance aussi de cette littérature du 19e. C'est l'ascension sociale. Hein. Balzac, ça n'est pratiquement que ça. Comment un fils de paysan, un fils d'ouvrier, comme on entend Gérard Philippe le dire, peut arriver à jouir des mêmes privilèges que les bourgeois. Donc ça, je dois dire que ça me préoccupait aussi. Je dis toujours que dans ce qui m'a poussé à écrire, à faire ce que je fais, il n'y a pas que l'amour de la littérature. Vous voyez, il n'y a pas que des raisons très très pures comme ça, l'amour de l'art, de la poésie, de la littérature. Il y a aussi le désir de vivre bien, comme j'avais l'impression que François Sagan vivait de sa plume, comme on disait avant. Et voilà, au milieu de gens qui avaient de l'argent, qui s'amusaient, qui vivaient dans des jolis endroits, qui buvait du whisky à 6h ou 7h du soir. Enfin voilà, j'avais envie d'avoir cette vie-là aussi, et ce qui était évidemment très très loin de celle qui m'était promise.
Alors, cette envie, elle se traduit, elle se formule, elle se noue finalement dans une longue rêverie enfantine. D'ailleurs, vous avez des mots très très beaux pour parler de la rêverie d'enfance ou de la rêvasserie, puisque vous parlez du terme rêvasser, que vous n'aimez pas beaucoup, mais qui en même temps désigne parfaitement.
Oui, parce qu'en fait, c'est une rêverie très, très discontinue, imprécise. On passe d'un thème à l'autre, on mélange ça avec la perception qu'on a dans l'instant du réel, tout ça. Oui, pour moi, c'est ça, rêvasser.
Et puis, vous dites, l'enfance est heureuse car la spéculation mentale n'y rencontre pas de contradiction. Donc, il y a quelque chose comme ça d'absolument sans limite.
Oui. Bah oui, en fait, et moi, c'est ça que je crois, nous devons préserver le plus possible, je ne dis pas complètement, c'est sûrement pas possible, mais voilà, au maximum, cette possibilité de se dire, ben oui, cette possibilité du possible, c'est-à-dire vraiment se dire ce que j'ai envie de faire là, je peux le faire, voilà. Le réel ne vous a pas encore mis des barrières lorsqu'on est enfant, vous rêvez, je ne sais pas, très très riche, par exemple, voilà, votre désir, c'est d'être très très riche, et ben vous savez que vous allez pouvoir le faire, le devenir très riche, puisque vous avez tout ce temps devant vous comme ça. Et alors, mon Dieu, quand vous serez complètement libre, vous n'aurez plus vos parents derrière le dos pour vous empêcher de faire ceci ou cela, là, vous prendrez vraiment les moyens pour devenir très, très riche comme vous rêvez de l'être. Donc oui, c'est ça, c'est cette ouverture magnifique.
Catherine Millet, je vous lis le témoignage de Dominique, un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas, sur le site franceinter.fr, le site du Grand Bain. Bonjour, j'ai le même âge que Catherine Millet. Dans les années 50, on n'avait pas grand-chose pour rêver, et ça rendait la rêverie encore plus riche. Vous le dites vous-même, que vous aviez peu d'images à disposition.
Oui, c'est vrai, on n'avait pas... nous, la télévision est arrivée assez tard dans le foyer. Il y avait quelques magazines. Il y avait des magazines pour enfants qu'on m'achetait, mais c'était surtout... Il n'y avait pas tellement de photos dans ces magazines. C'était pas tellement l'arrivée du réel dans l'imaginaire. C'était encore des illustrations comme ça, des dessins. Et du coup, il fallait compenser. Il fallait inventer nous-mêmes ces images. Et c'est curieux parce que lorsqu'à un moment donné, dans le livre, je dis quelques mots de ces petites histoires que j'inventais, que je commençais à écrire quand j'étais enfant, les images que j'avais en tête au moment où j'écrivais ces lignes, je les ai retrouvées intactes. C'est-à-dire que vraiment, écrire pour moi, c'est décrire l'image qu'on a, c'est décrire sans apostrophe, l'image qu'on a devant les yeux. Et c'est très visuel. Moi, j'ai un mode de travail très, très visuel. Et donc, retrouvant ces écrits d'enfance, je retrouvais les images qui m'avaient servi à les alimenter. Et donc, c'était des images construites de bric et de broc à partir de mes lectures, à partir de ce que j'avais entrevu, comme ça, de la vie des autres pendant les vacances. Ça aussi, par exemple, les grandes vacances, c'était important parce que ça me mettait en contact sur la plage avec des enfants qui venaient d'autres milieux, d'autres villes. Et ça aussi, ce qu'ils me disaient de leur vie quotidienne, ça m'ouvrait des horizons au sens propre. Hein.
Alors, vous dites aussi que la fiction avait la fonction d'une cachette pour vous, puisqu'on peut revenir sur ce dont on a parlé au début de cette émission, c'est-à-dire ce foyer familial qui a été la fournaise de l'enfer. Donc, il y a eu aussi un besoin permanent de s'en échapper et de se reconstruire un espace mental riche et heureux.
Ouais, ouais, c'était mon espace que je m'étais trouvé devant la petite bibliothèque de ma mère où j'étais accroupie et un livre sur les genoux en train de lire, quoi. Et ça, c'est sûr, pendant que ça se disputait autour de moi, et ben moi j'étais dans l'histoire que j'étais en train de lire, donc c'était un vrai refuge. Oui.
Et puis vient le moment où vous commencez à écrire et vous dites finalement écrire c'est poursuivre le fil de la fiction dans laquelle on est entré pour tresser plus intimement avec les fils de sa vie. Et je me suis demandé si du coup l'écriture était nécessairement autobiographique chez vous, s'il fallait tresser comme ça le fil de la fiction, oui, de la rêverie qui se nourrit d'autre chose avec votre vie à vous.
Oui, oui, c'est d'ailleurs une chose à laquelle j'ai été amenée à réfléchir depuis que le livre est écrit, parce qu'en fait, c'est vrai que je suis sûre que le premier mouvement qui vous pousse à écrire, c'est que vous n'avez pas envie de sortir de ces belles histoires que vous êtes en train de lire et qui sont tellement mieux que le réel qui vous en tire. Et le comble, c'est que moi, j'ai continué en effet à écrire, mais du coup, pour décrire le réel, bon, et décrire ce réel souvent qui m'a fait souffrir. Ce n'était pas le cas avec La vie sexuelle, Mes jours de souffrance, par exemple, qui raconte une crise de jalousie, ou ce livre-ci qui raconte une enfance des fois un peu difficile. En fait, oui, je réintroduis le réel là où j'aurais voulu tellement continuer à prolonger mes rêves. Mais enfin, bon, c'est comme ça.
Très joli mot de la fin. Merci Catherine Millet.
Merci à vous.
Donc, Une enfance de rêve, c'est sorti chez Flammarion. C'est un livre à la fois très doux et très percutant, ce qui est extrêmement troublant. Merci d'avoir été la première invitée de ce premier Grand Bain de l'été.
Merci, merci.
Voilà, l'émission, elle se réécoute à volonté sur franceinter.fr ou en podcast, parce que d'ailleurs, changement de saison dit changement d'abonnement pour emmener votre radio préférée partout où vous allez ces deux prochains mois. Et puis, chaque jour, à cette heure-là, il est 9h50, environ, et ben vous allez voir une question très simple de la vie quotidienne et puis un classique du cinéma pour y répondre. Vous allez vite comprendre, c'est une très jolie idée, c'est Florence Colombani.